Nous vous présentons, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Dôme. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. S'ils voient que je suis au support qu'eux, ils me respecteront. » Il lui dit, « Et moi ?» Elle lui dit, « Toi, tu as toute ta vie devant toi. Moi, j'ai passé toute ma vie dans l'ombre d'un homme. Je peux bien, pour le peu de temps qui me reste à vivre, être sur le devant de la scène. » Ferdinand est triste. Il se dit qu'il a, en plus de son frère, sa mère a lutté. Elle semble coriace, celle-là. Mais le père n'est pas mort, il continue à travailler. Maxime l'aide du mieux qu'il peut. En plus des dossiers de demande de prêt qu'il étudie, il reçoit avec son père les grands clients. Il fait visiter les chantiers parce que la banque a investi dans l'immobilier. On est toujours les soyeux, mais aussi les nouvelles techniques. La chimie, l'automobile, le chemin de fer, le cinéma. Pour les nouveautés commerciales, c'est Maxime qui s'en occupe. On parle de plus en plus, encore officieusement, de la guerre. Oui, de la revanche de 1870. Les entreprises d'armement et de transport commencent à travailler pour ça. La guerre est encore loin, mais il faut la préparer et ça demande du temps. Il faut de l'argent pour les prêts que demandent les entreprises et le gouvernement pour ça. L'argent ne manque pas parce qu'il est stable. On peut vivre et bien vivre de ses rentes. Et puis, il y a tellement de nouveautés que l'on peut facilement investir. Les gens très riches deviennent très riches. La classe moyenne se porte bien. Les autres, le reste, les pauvres, les très pauvres, ils mènent une vie misérable dans des taudis dans les villes. Tout juste de quoi ne pas mourir de faim. L'hiver, ils ne peuvent se vêtir et se laver comme il faut. L'hygiène pour eux, c'est ce qu'ils peuvent. Ils travaillent dès l'âge de 9 ans. L'école, c'est quand l'on peut, malgré qu'elle soit obligatoire. Les heures de travail dans la journée sont très longues et la plupart des choses que l'on fait sont manuelles, donc pénibles et sans sécurité ni hygiène. Après une journée de labeur qui pour la plupart se passe dans la poussière, la saleté, le manque d'hygiène et de sécurité, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Alors, on boit. Les enfants mêlés aux adultes, même la même vie que les adultes. Très tôt, ils apprennent ce qu'ils ne devraient pas et vivent comme les adultes. Ils font comme eux, la boisson, etc. Malgré, mélangé aux adultes, au travail, chez les parents qui n'ont pas la plupart du temps que de, qui n'ont pas la plupart du temps que de pièces, mélangé aux adultes, au travail, puis chez les parents qui n'ont pour la plupart du temps que deux pièces, la chambre sert à tout, alors c'est un miracle s'il n'y ait pas autant de cas d'inceste à cette époque. Le pauvre ne mange pas la même chose que le riche, ou celui qui a. Les légumes et les fruits ne sont pas les mêmes, et la viande lorsqu'il peut en acheter. Tout est cher. La Troisième République est une république qui a été prise par la bourgeoisie et même les royalistes, et pour s'enrichir. L'école est obligatoire, mais l'on travaille à 9 ans chez les pauvres. Les lois sociales n'ont pas touché le pauvre, les ouvriers, les paysans. Elle n'a touché que le bourgeois, celui qui a déjà.
Moi, les mômes, je ne suis jamais voir qui voulait prendre.
lorsque le pauvre manifeste ou fait grève, on le met au pas. Si ça manifeste pour revendiquer ou faire grève, on lui envoie les troupes et c'est à coups de baïonnette. Voilà comment les revendications des ouvriers sont reçues. Cette république, alliée aux moralistes, aux curés, aux monarchistes, pour faire taire le pauvre, l'ouvrier. En plus, la république embrigade l'adulte, l'enfant, le peuple à vouloir la guerre. Les cloches ne se mélangent pas et ne se parlent pas. Et puis, on ne parle pas le même langage. Les riches parlent, celui des écoles, le pauvre, l'ouvrier. C'est le langage de la rue, moitié argot, moitié patois, et très peu français. Le pauvre peut arriver sans être aidé par personne à passer par une autre classe grâce à son travail et à sa ténacité. Oui, il peut passer par une autre classe grâce à son travail et à sa ténacité. L'ouvrier peut devenir qualifié et artisan, puis chef d'entreprise, plutôt avoir un atelier. Les enfants, s'ils sont sages et ne dilapident pas toutes les économies de la famille, peuvent, en allant à l'école, en se formant, agrandir le petit atelier, etc. Mais cela demande un tel sacrifice, des heures de travail en plus, et puis des économies, de la ténacité, que presque personne ne peut y arriver, que c'est, pour ainsi dire, un miracle d'y arriver. Et cela peut se faire grâce aux nouveautés. Un forgeron peut se lancer dans la fabrication de voitures, etc. Tout ceci fait que c'est bon pour les banques. Le travail est là, l'argent est stable, et la main-d'œuvre est à très bon marché. Maxime, entre 12h et 14h, lorsqu'il peut, va toujours dans le parc des hauteurs de Fourvière. Il aime se retrouver seul, s'asseoir sur un banc et se reposer. Aujourd'hui, le ciel est bleu. C'est rare, rare que le ciel soit bleu à Lyon. Viens, un jeune homme grand, mince, le visage sympathique d'un 23 ans, costume gris. Demande à Maxime, avez-vous l'heure s'il vous plaît? Maxime lui dit, 12h30. Le jeune homme lui demande, merci, ma montre est en réparation. Il s'assoit près de Maxime. Ça vous ennuie pas? Maxime lui dit, non, pas du tout. Le jeune homme lui dit, j'aime ce parc, pas vous? Maxime lui dit, moi aussi. Maxime se sent un peu gêné, mais n'ose pas se lever parce que ça risquerait de froisser le jeune homme. Le jeune homme lui dit, je vais aller au séminaire visiter un ami. Les horaires sont très stricts. C'est un ami que j'ai rencontré par hasard dans le train. Il avait des ennuis, on lui avait volé son portefeuille. Je l'ai aidé, nous avons sympathisé. J'ai rencontré dans le train. Maxime est surpris. Il se dit que ce doit être François. Il lui demande, pardonnez-moi, mais pouvez-vous me dire le nom de votre ami? Si c'est pas trop, vous demandez. Le jeune homme le regarde surpris et lui dit, pourquoi? Maxime lui dit, parce qu'il me semble le connaître. Le jeune homme lui dit, comment pouvez-vous le connaître? Vous ne savez rien sur lui. m'eût dit, m'avait suffisamment dit des choses. Je ne lui dis, bien, il se nomme François. Maxime rit. Je lui demande, pourquoi riez-vous? Maxime lui dit, parce que je le connais. Je nomme fait à Maxime. Ah, Maxime lui dit, j'ai eu affaire à lui dans le train. C'est un charmant garçon. Je doute que vous le trouviez au séminaire. Je le demande, pourquoi? Maxime lui dit, eh bien, parce qu'il n'a jamais eu l'intention d'y aller. Je le lui demande, et qu'en savez-vous? Maxime lui dit, je le sais, moi il me l'a tout dit. Et je le lui dis, je ne comprends pas. Maxime lui raconte sa rencontre avec François. Le jeune homme est surpris et en colère. Maxime lui dit, ne soyez pas en colère, c'est malgré tout un gentil garçon. Il fait ça pour se faire de l'argent. Il pourrait faire autre chose, plus immoral. Moi-même, je lui ai pardonné. Le jeune homme lui dit, parce qu'il vous a dit la vérité. À moi, il s'est joué le jeu de l'amitié, Maxime lui dit. Peut-être bien, mais si vous l'avez trouvé très sympathique. Le jeune homme lui fait, mais cela ne l'a pas empêché de mentir et de se moquer de moi, a-t-il dit. Mais non, il a fait comme ça, voilà tout. Et puis, parlez bien de religion, le jeune homme lui dit. Oui, je suis fait prendre. Maxime lui dit, comme moi, il rit tous deux. Maxime lui demande, il venait d'où? Je lui dis, de Paris, je crois. Mais qui est-il? Maxime lui dit, peut-être un vagabond, si l'on veut, mais très intelligent et puis irrésistible. Je lui dis, pour ça, oui. Maxime lui demande, qu'allez-vous faire maintenant? Le homme aux ses épaules lui dit, ben, je vais m'en retourner. Maxime lui dit, vous n'allez pas au séminaire? Le jeune homme lui dit, pourquoi faire? Maxime lui dit, on ne sait jamais. Le jeune homme lui dit, bien, nous allons y aller ensemble alors. Maxime demande, il est quelle heure? Il regarde sa montre, 14 heures. Maxime lui dit, je dois me présenter, Maxime Lafarge. Le jeune homme lui demande, la banque Lafarge? Maxime lui dit, oui. Enfin, mon père, le jeune homme lui dit, Xavier Charbonnet. Maxime devient tout rouge et lui demande, vous êtes de la famille Charbonnet qui habite rue des Archers? Xavier lui dit, oui, pourquoi? Maxime lui demande, vous aviez dans la famille un dénommé Nicolas. Xavier lui dit, oui, hélas. Il est arrivé à cause de lui, à cause de cette personne, pour un drame terrible. Mais n'en parlons plus. Je suis fils de l'oncle qui a adopté cet animal. Maxime lui dit, je le sais. Le jeune homme lui demande, comment savez-vous ça? Maxime lui répond, parce que j'ai fait la connaissance de Nicolas. Et nous avons sympathisé. Xavier lui dit, vous avez sympathisé avec cette chose? Maxime lui dit, oui. J'ai appris avec tristesse le drame. Mais Nicolas était malade. Il croyait qu'on lui en voulait. Qu'on lui voulait du mal. Qu'on se moquait de lui. Oui, qu'on se moquait de lui. Il avait besoin de beaucoup d'affection. Xavier lui dit, mais mon oncle, il aimait beaucoup. Maxime lui dit, je crois qu'étant enfant de l'assistance, ça l'a beaucoup perturbé. Il croyait que les autres le prenaient pour un inférieur. Xavier lui dit, ce qui était faux. Maxime lui dit, je le sais, j'ai essayé de le lui expliquer, mais il n'a rien voulu savoir. Après ce drame, il est venu me voir, parce que j'étais à ses yeux la seule personne qui pouvait l'aimer et le comprendre. Et pour plus l'aider, il est mort dans son cauchemar. Xavier lui dit, je me souviens comment il avait été retrouvé mort dans une maison. C'était donc chez vous ? Mathilde lui dit, oui, malheureusement. Et c'est moi qui lui avais dit d'aller dans cette maison. Il est mort de sa folie, de son cauchemar. Mais il ne devait pas penser à lui comme un criminel, plutôt comme un malade. Xavier lui dit, là, vous allez bien. Les membres de ma famille sont morts par sa faute. Ce sera dur de pardonner. Maxime lui dit, vous êtes le lien des deux personnes que j'ai aimées. Soyons amis. Xavier lui dit, je veux bien, mais vous avez de drôles de relations. Un voleur et un qui a tué. Maxime lui dit, c'est la vie qu'il a voulu. Ils ont été pas du bon côté de la vie. Ça peut arriver à n'importe qui. Et puis, on peut être comme eux. Xavier lui dit, bien, m'en vais vous laisser. Mathilde demande, vous n'allez pas au séminaire ? Xavier lui dit, pourquoi faire ? Il n'y est pas. Mathilde lui dit, quelque chose me dit que nous devrions y aller. Xavier lui dit, ma foi, j'ai le temps, allons. Ça me permettra de voir comment c'est à l'intérieur d'un séminaire. Mathilde lui dit, comme ça, nous serons sûrs qu'il y est. Qui n'est pas au séminaire. Ils y vont. La porte s'est ouverte. C'est un prêtre, grand mec chaud. Il demande. Vous désirez ? Mathilde dit, j'aimerais en voir. François Perron. Le prêtre lui dit, entrez, les gens. Le prêtre les mène à une pièce. Ils sont surpris. Oui, il est bien là. Entrez. Ainsi dit Azali. Voyez, on a bien fait venir. Il ne faut pas désespérer des hommes. Entre dans la pièce, François. Il les voit surpris.
Quelle surprise, vous deux ? Maxime lui dit, la surprise est encore plus grande pour nous. François lui dit, les voix du Seigneur qui mènent à lui sont impénétrables. Maxime lui dit, alors, tu as trouvé la vocation ? François lui dit, non, je ne l'avais pas. Mais à force de le dire, c'est comme en priant, à force de prier, l'on finit par croire. Et moi, un jour, je me suis dit, puisque tu dis que tu rentres au séminaire, alors pourquoi pas y aller ? Je suis allé au début, je n'avais pas la foi, mais juste pour être au courant, et puis petit à petit, j'ai été pris par l'ambiance, j'ai fini par croire. David lui demande, comment as-tu fait pour entrer comme ça ? Je croyais que c'était plus difficile. François lui dit, j'ai fait la connaissance d'un professeur qui enseignait ici. Je lui ai plu et il a parlé de moi à son supérieur. Voilà, le mal peut mener au bien. Mathilde lui dit, j'en suis très heureux pour toi. François lui dit, merci. Xavier demande, la rue, la liberté, te manque pas ? François répond, non. Enfin, plus maintenant. Au début, c'était très dur de rester assis des heures à ne pouvoir parler. mais je me suis habitué. » Natsim lui dit, « Tu as bonne mine ?» François lui dit, « Merci. » Natsim lui demande, « Mais comment peux-tu suivre les cours ?» François lui dit, « Je suis des cours de rattrapage en dehors des cours, mais je ne suis pas le seul. Beaucoup de séminaristes ne peuvent pas suivre. Ils viennent pour la plupart de la campagne, de milieux modestes. On les garde parce que ça peut faire de beaux prêtres, de bons prêtres pour les campagnes. » Natsim lui dit, « Je pense beaucoup à toi. Tu ressembles un peu à un petit vagabond que j'ai connu. Enfin, tu sais. » François lui dit, « Moi aussi, je pense à toi et à ta famille. Ils ont été chics avec moi. » Natsim demande, « Nous reverrons un jour ?» François lui dit, « Bien sûr, j'ai des jours de sortie. Comme ça, tu parleras de ta montagne. Je dirai que je connais quelqu'un à Lyon et que tu veux bien me recevoir chez toi. » Natsim lui dit, « Je ferai avec toi des courses folles et nous rirons comme avant. » François lui dit, « Ça, je te le promets, je n'ai pas changé pour ça. » Xavier lui demande, « Et moi alors ?» François le dit, « Vous aussi, vous viendrez. » « Oui, vous viendrez. » « Je viendrai vous voir. » Il continue à parler. François leur parle de sa vie au séminaire, qui semble monotone, mais la troupe très reposante. Puis ils sont obligés de partir parce que les cours vont recommencer. Avant de partir, Natsim donne son adresse au supérieur. Il peut venir me voir quand il veut. Et s'il a besoin de quelque chose, vous me faites savoir. Le supérieur lui dit, « Bien, monsieur. » Grâce à Maxime et Xavier, François n'est plus un pauvre que l'on a pris, mais un jeune homme qui a des relations et que l'on peut payer pour lui. Une fois dehors, Mathilde dit à Xavier, « Vous voyez, faut pas désespérer de l'être humain. » Xavier dit, « Oui, je crois que j'ai pardonné à ce pauvre Nicolas. Cela m'a donné une leçon. Et puis, je l'ai très peu connu. Je n'avais pas le droit de juger. » Maxime lui dit, je suis très heureux. Nicolas était malade. C'était pas de sa faute. Au fond de lui-même, il était bon, j'en suis sûr. Il décide de se revoir. Ils se revoient souvent, vont au concert, se promener dans la ville. Natsim lui parle de ses rêves de partir de montagne et de montagne. François vient de temps en temps les voir. Natsim, chez lui, c'est la mère qui le reçoit. Elle est surprise. Lui est heureux de lui dire qu'il est au séminaire. Ferdinand le voit aussi, le traite de petit curé. La mère lui demande d'être polie. La mère dit à François, « Fais attention. Faites très attention. Les gens sont durs, comme ce petit imbécile. Mais ne faites pas attention à lui. » Maxime est heureux. Il a un invité. Ils sortent tous les trois. Tous les deux vont dans le quartier du premier, dans les rues. François lui dit que la vie qu'il mène n'est pas facile. Qui tiendra le coup? Maxime lui dit que pour lui aussi c'est la même chose. Oui, François, pour lui la vie n'est pas facile. Il tiendra le coup comme Maxime. Il y a des grèves. Dans leur promenade, ils voient la police foncer sur les grévistes à cheval avec des matraques. On leur tire même dessus. Les grévistes chantent l'international. Cela crée une émeute. Les deux jeunes gens y sont pris. La police tire sur les grévistes. Ils réussissent à se sauver. Mais la police les rattrape. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Dom. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.